Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 80e épisode du Temps d'arrêt. Très heureux de recevoir le propriétaire, chroniqueur et collègue chez Tout sur le hockey, Mathieu Paradis. Ça va bien?
Ouais, ça va bien, Étienne. Je suis content d'être l'invité du 80e.
Ben oui,
C'est un chiffre rond. Fait que, tu sais, c'est une grosse preuve d'amour de ta part pour moi.
J'attendais d'avoir cet épisode-là pour te ramener. Mathieu est un habitué du podcast, très très content de t'avoir avec nous encore une fois, puis c'est un plaisir encore une fois de faire ça avec toi. La loterie de la LNH n'est vieille que d'une semaine, là, en date du mardi 14 mai, et on peut dire que ce fut un spectacle un petit peu beige, dans le sens qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de feu d'artifice. On pouvait espérer quelque chose d'excitant, mais ce ne fut pas le cas. Les popcorns ont été sortis un petit peu pour rien. On a quand même eu la chance d'assister à un moment important. C'est toujours intriguant et intéressant pour les équipes de savoir où on va repêcher. Finalement, bien, premièrement, le Canadien repêchera au 5e rang. Et ce sont les Sharks qui ont gagné cette loterie. Avec Tout sur le hockey, Espoir, le podcast, vous avez fait un épisode en live avec aussi le podcast La Relève, Martin Thériault. Donc, c'est une émission très, très intéressante. Puis, dans les prochaines semaines aussi, vous allez lancer toutes sortes d'épisodes de mock aussi pour préparer un petit peu tout ça. De notre côté, de mon côté, avec le temps d'arrêt, aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu plus justement basé sur mock draft. Là, on ne va pas se lancer en profondeur dans l'analyse des espoirs. On va se garder cet épisode-là pour un petit peu plus tard. Mais ça va être intéressant. Je trouvais ça intéressant aujourd'hui avec toi de défiler sur les 10-12 premières équipes, les options qui pourraient se présenter à eux. Avant de commencer, si tu voulais me parler un petit peu justement de comment vous avez vécu cette soirée-là de la loterie du 7 mai dernier.
Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo, là, honnêtement. Moi, personnellement, je trouve que la loterie de la Ligue nationale devrait s'inspirer des autres grandes ligues comme la NFL, la NBA. T'sais, on n'est pas capable de livrer un spectacle quand on parle de la NHL. Puis, je peux comprendre, t'sais, que on aurait aimé voir des équipes monter de plusieurs rangs. Puis, t'sais, voir les Sharks perdre le premier choix malgré leur saison de misère. T'sais, c'est des choses qu'on aimerait voir, mais malgré tout, c'est même pas en lien avec le fonctionnement de la loterie que j'ai un problème. T'sais, c'est bien correct que les rangs restent
ouais,
pareils.
C'est le hasard en bout de ligne.
C'est ça, mais t'sais, le spectacle en tant que tel est complètement inexistant. Tu
sais, absolument.
T'as Bill Daly qui flippe des cartons avec les logos de la Ligue nationale. Je veux dire, y a-tu pas plus plate que ça? Tu sais, fais quelque chose, tu sais, si je
la
sais pas.
La seule petite excitation se retrouve au moment qu'on voit l'image. On espère, dans le cas du Canadien, on espérait que on ne sorte pas 7e, 6e. On espérait qu'il y a des équipes derrière nous qui n'avancent pas. Donc, à chaque fois, c'était comme un mini suspense. Et comme tu l'as mentionné, là, on semble. Avec la LNH, on semble toujours être coincé derrière ces grosses ligues-là qui, oui, ont beaucoup plus de ressources, de revenus, mais qui se trouvent toujours la manière de faire un spectacle qui est intéressant. Encore une fois, ce n'était pas le cas du côté de la LNH. Là.
Ah, c'est ça. Puis, tu sais, c'est super corporate. Là,
ouais.
Le choix, il sort. Puis, là, les DG sont face d'enterrement. Il ne se passe à rien.
Ça.
T'sais, à un moment donné, je veux dire, le hockey, c'est un sport d'émotion. Je pense que dans un spectacle comme la loterie, que tu vas glisser une demi-heure avant des matchs de série par-ci par-là, t'annonces la date deux jours à l'avance. Tu sais, c'est
il
tout
manque
ça
quelque chose, définitivement.
Qui est à revoir, là, je pense. Là.
Comme tu viens de le dire, si le contenant est à revoir, bien, le contenu est resté quand même intéressant. Même si les probabilités n'étaient pas très, très hautes, que justement toutes les équipes restent à leur rang respectif, bien, ce fut le cas. Et je pense que c'est quand même assez mérité du côté des Sharks de Saint-José qui sont dans un processus de reconstruction depuis plusieurs années d'obtenir ce choix numéro un. On ne s'étendra pas sur ce choix-là. Il n'y a pas vraiment de débat. Ils vont repêcher McLean Celebrini, le meilleur espoir cette année. Il était sur place et je pense que c'est vraiment un joueur parfait pour relancer cette franchise-là.
Ouais, puis ça va être le fun de le voir aux côtés de Will Smith. Et t'sais, moi, un gars que j'aimais beaucoup à son année repêchage, c'était William
William
Eklund.
McClune,
Puis,
ouais.
je suis content qu'enfin il va avoir du talent élite avec lui parce
S'il
que
était tout seul cette
c'est
année.
ça. Puis je trouve que son arrivée chez les professionnels est plutôt difficile. Fait que si ça peut l'aider justement à relancer, puis sa carrière n'est pas finie, on s'entend, mais t'sais, de relancer un petit peu plus son développement avec du monde qui s'en vienne pour l'appuyer. Ça va juste être bénéfique pour les Sharks.
S'il peut y avoir un seul consensus pour ce qui suit, c'est qu'il n'y en a pas de consensus. Je
Ouais,
pense
c'est pas
que
mal ça.
on est dans une situation, contrairement, oui, l'année passée, il pouvait y avoir un certain changement par rapport au top 4, top 3, les quatre premiers joueurs qui sont sortis, ce n'était pas vraiment une surprise. Mais cette année, ça devient beaucoup plus ouvert à un certain point. On a entendu certains commentaires disant que, il n'y avait pas grande différence, mettons, entre le choix 2 et 10. Écoutez, on peut avoir certaines réserves là-dessus. Mais on va se lancer sur les possibilités que les Blackhawks de Chicago vont avoir au rang numéro 2. Cette année, une belle nouveauté sur le site de Tout sur le hockey, on a présenté un mock draft qui a été mis à jour régulièrement. Donc, c'est quand même un bel outil qui, au fil de la saison, a été agrémenté de profils d'espoir. Et la dernière mise à jour a été faite après la loterie. Donc, pour chacun des rangs, évidemment, au rang numéro 1, c'était Macklin Celebrini. Au chacun des rangs, je vais mentionner le joueur qui est placé sur le mock de Tout sur le hockey. Et si jamais il y a des choix qu'on n'est pas d'accord, on va blâmer notre collègue Pascal, qui est l'auteur de ce dit mock draft. Donc, sans plus tarder, du côté des Blackhawks. Donc, le choix numéro 2, Pascal prévoyait du côté des Blackhawks, Ivan Demidov. Et ce n'est pas la première fois, et ce n'est pas le premier non plus à placer Demidov avec les Blackhawks. On va essayer de mettre certaines choses en perspective et voir pourquoi ça pourrait être lui et pourquoi ça pourrait peut-être pas être lui. Un point que j'ai noté, très beaucoup, c'est un très, très probable qu'il sorte avec les Blackhawks, probablement. L'attaquant le plus talentueux à ce rang-là. Mais lorsqu'on regarde la banque de jeunes espoirs ou jeunes attaquants qui sont actifs actuellement avec les Blackhawks, il y a quand même un point commun. Si je parle de Connor Bedard, de Frank Nazar, Oliver Moore, Lucas Reichel, Nick Lardis, ce sont tous des 6 pieds et moins. C'est le cas aussi d'Ivan Demidov, 5 pieds 11. Est-ce qu'on voudra, selon toi, aller chercher un joueur qui est probablement le plus talentueux, mais qu'on reste quand même dans le même moule de petits attaquants. Et là, ça commence à faire beaucoup de petits frames sur ton top 6. Je sais pas ce que tu
Ouais, c'est
penses
sûr
de cette.
que, tu sais, quand on regarde sur la grandeur seulement, tu sais, je peux comprendre l'argument. Ceci étant dit, un talent comme Ivan Demidov, c'est dur de passer par-dessus
Absolument.
ça. Tu sais, c'est un gars qui automatiquement va venir s'insérer comme le deuxième gars de ton one-two punch, tu sais. Puis dans les organisations, tu sais, qui ont gagné des Coupes Stanley, qui aspirent à la Coupe Stanley année après année, tu as ça, un one-two punch. Tu sais, tu as deux joueurs vedettes. Tu sais, on a juste à penser à les Rantanen, McKinnon, les McDavid, Draisaitl,
Crosby,
Crosby,
Malkin, ouais.
Malkin. Tu sais, il y a tout le temps des duos de joueurs élites, des joueurs de franchise, des joueurs générationnels comme Bedard. Qui font partie de ces franchises-là. Fait que tu as la chance de faire ce one-two punch-là en une seule sélection. Fait que pour moi, c'est dur de passer par-dessus un gars comme Demidov malgré la grandeur. Parce que la grandeur, tu peux aller régler ça plus
Absolument.
tard dans le repêchage. Tu peux aller régler ça via les agents libres. Des gars comme Lardis, Nazar, si tu vois que dans 2 ans, il te manque de poids, ben c'est des
On
gars que
peut
tu peux
échanger ça, ouais.
utiliser quand même dans des transactions exactement pour aller te chercher du gabarit. Fait que, tu je comprends le gabarit. Puis, tu sais, à la limite, une des grosses surprises du repêchage, ce serait que Chicago opte pour Caden Lindstrom dans
C'était
l'optique
mon
où,
prochain point,
c'est ça,
exactement.
dans l'optique où tu veux aller chercher du gabarit au repêchage. Puis, tu as Caden Lindstrom qui, évidemment, va être disponible au deuxième rang. Ça serait toute qu'une surprise, honnêtement. Puis, tu sais, là, après ça, le chaos va être déjà commencé, là, parce que
Ça va être la
on va y
folie à
venir
ce
les autres
point-là,
équipes. C'est ça, on va y venir les autres équipes après. Ils ont des besoins précis, à mon
là.
avis. Mais là, si tu as un Demidov de disponible, il va y avoir du chaos directement après ça.
Et on y reviendra évidemment, du côté de Lindstrom, là, mais on parle ici d'un attaquant de 6 pieds 4. Penses-tu quand même que. Écoutez, on voit beaucoup de red flags potentiels dans son cas, que les blessures pourraient être un enjeu. Selon moi, le plus gros enjeu est peut-être l'échantillon très petit qu'on a vu sur lui cette année. Donc, moins de matchs, 36 matchs incluant les séries éliminatoires. Mais c'est pas comme si c'était un gars qui était à sa première année dans le junior. Il a joué une autre année l'année passée aussi. Donc, peut-être que ce point-là est valide, oui, mais jusqu'à un certain degré. Mais dans le cas de Lindstrom, est-ce que, selon toi, les Blackhawks pourraient justement être tentés de se dire, oui, probablement que le besoin serait d'aller chercher ce gros attaquant-là. À quel point, justement, le besoin par rapport aux meilleurs joueurs disponibles pourrait avoir les dessus l'un sur l'autre. Là. C'est souvent le débat qu'on va voir chez les équipes. Et justement, c'est récemment, Jean-Philippe Glaude, de recruteur des Prédateurs, en parlait à BPM. Mais c'est souvent l'enjeu principal auprès des équipes, le besoin par rapport au talent. Là.
Je pense que pour les Hawks, avec Connor Bedard en place, avec Nazar qui est arrivé dans la Ligue nationale, il va jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Ils ont fait jouer Korchinski. Ils ont un Seth Jones dans l'équipe. Je pense pas qu'on veut s'éterniser dans la reconstruction. Puis un profil comme Caden Lindstrom est très alléchant pour une organisation, mais aussi va nécessiter du développement.
Ouais. Bon
peut-être
point.
Un petit peu plus qu'un Ivan Demidov qui est un attaquant élite déjà en partant. Tu sais. Fait que c'est ça, je pense, le problème plus que les blessures, parce que l'échantillon, au final, tu sais, l'année passée, Caden Lindstrom, il n'a pas été blessé. Tu sais.
Non, c'est sûr.
Puis je pense qu'en entrevue avec Marco D'Amico, il expliquait que ses blessures étaient réglées à 100% et qu'il allait être prêt pour la prochaine saison. Fait que moi, ça me stresse plus ou moins.
Non.
Ce qui me questionne, c'est justement par rapport au plafond immédiat, la rapidité que Lindstrom va être un gars de 80 points, exemple, dans la Ligue nationale. Parce qu'il faut le rappeler qu'au Linka en août, au début de l'année, Caden Lindstrom, là, je m'excuse, mais il n'y avait pas lieu de parler de ce gars-là dans le top 5 parce que c'était un joueur de rôle qui faisait de l'échec avant, qui brassait puis qui avait des minutes beaucoup moins que certains joueurs, qu'un gars comme Berkeley Catton, exemple. Fait que, tu sais, c'est vraiment la progression cette année qui l'a mené à ça. Mais je pense que c'est un espoir qui implique du développement versus Demidov qui pourrait arriver tout de suite et avoir un impact.
Lorsqu'on parle de besoin du côté des Blackhawks, ben, il y en a un petit peu partout, mais il y en a un assez majeur au niveau de la défense. Tu as parlé tout à l'heure de Kevin Korchinski qui est là. Dans nos jeunes défenseurs qui sont dans l'alignement présentement, évidemment, il y a lui. On parle aussi d'Alex Vlasic, de Wyatt Kayser qui sont gauchers. Ce ne seront pas les deux derniers quand même des défenseurs à grand potentiel. Du côté des espoirs qui sont dans le pipeline, on parle de Nolan Allen, Ethan Del Maestro, aussi gaucher. Sam Rinzel, qu'on a vu avec dans le programme, dans le championnat du monde junior avec les États-Unis récemment. Seul espoir de renom qui est droitier. Possiblement pas un joueur qui va combler cette première paire-là défensive. Ce qui nous amène à la possibilité que les Blackhawks repêchent un défenseur. Est-ce que selon toi, et là, en mentionnant ceci, on voit un besoin du côté de défenseur droitier, mais il y en a un au moins, peut-être deux, peut-être trois, qui comblent le fait non seulement du besoin, mais qui seront des joueurs extraordinaires. Et je vais commencer en parlant de Artyom Levchunov. Est-ce que selon toi, les Blackhawks pourraient tenter de le prendre, le Biélorusse qui joue à l'Université du Michigan?
Ouais, il y a plusieurs journalistes là, qui couvrent les Blackhawks qui disent que les Hawks ont un intérêt sérieux envers Levchunov. Puis, tu sais, parce que même si
ce
on n'avait pas d'infos, ben, c'est ça, c'est une association assez facile à faire pour les raisons que tu as mentionnées. Tu sais. Levchunov, même si moi, personnellement, je ne suis pas super vendu sur cet espoir-là, je pense que vraiment au niveau de la prise de décision, puis tout ce qui se passe entre les oreilles, dans le fond, l'anticipation, la prise de décision, ben, je trouve que c'est à travailler. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il va arriver immédiatement dans la Ligue nationale puis avoir un impact, là. Sauf qu'il y a beaucoup d'habiletés individuelles qui peuvent tendre vers une évaluation de gars de première paire, tu sais. C'est un gars qui aime beaucoup appuyer l'attaque. C'est un gars qui il a le physique de l'emploi pour jouer dans la Ligue nationale. Il joue physique également. Fait que, tu sais, ses lacunes présentement, je pense qu'ils peuvent se corriger avec du vidéo. Tu sais, je suis un peu dans le même feeling que David Yerichek à son année repêchage, mais je pense que Lefchounov, il a peut-être un petit peu plus de pop offensif que Yerichek. T'sais. Yerichek, lui, c'était son lancer frappé qui était solide. Lefchounov, ses décisions d'appuyer l'attaque sont quand même bonnes. C'est juste que je trouve qu'en zone offensive, il devient très peu créatif
Ouais.
quand il arrive dans la zone. Mais tu sais, c'est ça. Je peux comprendre que si tu
C'est le
cherches un défenseur,
package, ouais.
exactement. Je pense que pour le package, un défenseur droitier dans le haut du repêchage, ça peut être une cible. Tu peux avoir un Zane Parerk aussi,
C'était
là.
le prochain nom que j'allais te nommer.
C'est ça, ben tu sais, tu peux avoir un Zane Parekh.
Penses-tu qu'on pourrait tenter justement de vouloir créer un genre de super unité d'avantage numérique où on aurait un Connor Bedard, un Zane Parekh qui serait ton général, ton corps arrière, qui a des lacunes en défensive, mais on imagine un Parekh et un Bedard ensemble et ça serait quand même tout feu, tout flamme, là.
Ouais, c'est sûr que ce serait assez électrisant, mais tu sais, personnellement, je vais peut-être préférer avoir un Korchinski qui va être plus efficace en général. Mais tu sais, je peux comprendre sur un avantage numérique, tu sais, l'aspect défensif est peut-être
Moi, là, oui.
moins important parce que c'est beaucoup là que le bobo blesse là, dans le cas de Parekh. Tu sais, c'est pas un grand joueur défensif, c'est un quatrième attaquant, c'est un gars qui a l'air plutôt nonchalant sur la patinoire. Fait que, tu sais, des fois, ça le trahit un petit peu. Au niveau des relances, on est très loin de Kevin Korchinski, qui est excellent en relance. Fait que, tu sais, Parekh et Lefchounov, c'est deux profils très différents, mais je
Ouais.
pourrais comprendre, considérant qu'ils sont droitiers, qu'ils peuvent apporter, d'un côté, beaucoup d'offensive, de l'autre côté, un style rugueux un petit peu, très propice à la Ligue nationale. Je peux comprendre l'intérêt des Hawks.
Au rang numéro 3, les Ducks d'Anaheim, le choix que Pascal, par l'entremise du mock de Tout sur le hockey, prévoit pour les Ducks, il s'agit de Lefchounov qu'on vient de mentionner. Pour mettre en contexte un petit peu, les Ducks ont plusieurs bons jeunes attaquants, Trevor Zegras, Leo Carlson, Mason McTavish, Cutter Gauthier, nouvellement. Et dans ce qui rend la sélection de Lefchounov plus probable, ben c'est l'échange de Jamie Drysdale. Hein. On a échangé un défenseur droitier pour s'améliorer en attaque. On a perdu un petit peu de cette profondeur en défensive. Du côté gauche, on est un petit peu mieux nanti avec Minchukov, Zellweger, Tyson Hintze qui pourraient rejoindre les rangs. Du côté droite, le meilleur espoir, ben c'est Tristan Luneau. On vient comme cocher d'un coup deux besoins aussi, celui d'un défenseur droitier, mais aussi on va chercher un défenseur complet en Lefchounov. Est-ce que pour toi, c'est une sélection qui tient la route, là?
Ouais, ben dans tous les cas, je vois vraiment les Ducks. T'sais, si les Hawks, c'est pas si clair que ça à cause de
Ouais.
Demidov, je pense qu'Anaheim, c'est assez clair qu'on va pencher pour un défenseur, surtout qu'on a laissé partir Drysdale.
Exact.
Fait que t'sais, je pense vraiment que, encore une fois, Lefchounov, Parekh, ça pourrait être des solutions. T'sais, quoique. T'sais, on a quand même. Zellweger est un défenseur
Ouais.
très offensif.
On voit des similitudes avec un peu.
Ouais, puis d'un autre côté, Pavel Minchukov, tu sais, il y a cette touche de physique-là, cette touche d'offensive-là qu'on peut peut-être retrouver un petit peu dans Lefchounov. Fait que, tu sais,
Ouais.
c'est des profils similaires. Fait que, tu sais, ça peut vraiment aller d'un bord puis de l'autre. Mais dans tous les cas, tu sais, est-ce qu'ils vont nous surprendre puis y aller avec un Anton Tsilaev qui est gaucher? Tu sais, ça se pourrait aussi, là, tu
Absolument.
sais. Est-ce qu'il pourrait vraiment, vraiment surprendre puis aller avec un Carter Yakemchuk au troisième?
C'était le nom que j'allais te mentionner. Est-ce
Je
que.
te devance tout le temps, je
Ouais, c'est
t'apprenais
ça.
un peu.
Ben c'est ça. Tu connais mes goûts un petit peu. Mais si Liaiev est un prototype extrêmement intéressant, mais Yakimchuk vient combler un besoin définitif du côté droit, tout le moins. On a un profil un petit peu plus rugueux en Tyson Hintze. Minchukov aussi est capable de jouer le jeu physique. Carter Yakimchuk, même si certains le voient un petit peu moins là, ben il vient, il amènerait quand même beaucoup. Il a un coffre à outils bien rempli du côté droit de la brigade défensive des Ducks. Donc, de ce côté-là, oui, ça pourrait être un petit peu surprenant, mais ça rentre dans la gamme qu'on vient de mentionner que à partir du choix numéro 2, tout peut se passer. Un espoir qu'on plaçait 10, 12e pourrait sortir 3-4.
Ah, c'est ça. Puis, tu sais, on a souvent mentionné que dans le top 10, top 15 à peu près, l'écart entre les espoirs n'est pas si gros que ça. Mm. Fait que Carter Yakemchuk, quand on regarde, exemple, la liste de Bob McKenzie, ciblé à peu près vers 10-12 dans ce coin-là de mémoire. Moi, personnellement, il n'est pas dans mon top 10, mais il est très proche. T'sais. Puis il y a des observateurs qui peuvent l'avoir dans le top 10, mais les Ducks le prendraient au troisième rang, puis je pourrais comprendre. Là. Je veux dire, c'est un défenseur qui a marqué 30 buts là, dans la WHL l'année
Oui,
passée.
c'est très
Fait que, tu sais,
impressionnant.
c'est non seulement c'est un tank, parce qu'il est très, très physique, un des plus physiques là, défenseurs, là, beaucoup plus que Lefchounov. En plus, il y a cette touche de marqueur-là qui se voit très peu. T'sais. Le gars termine ses actions au filet comme on demande à un attaquant, mais c'est un défenseur. T'sais. Fait que, les Ducks pourraient surprendre là, en allant chercher un prototype comme ça. Dans le cas que Lefchounov n'est pas là, exemple, puis qu'on veut vraiment aller chercher un
Un
gros
droitier, ouais.
défenseur droitier, ben là, à ce moment-là, ça pourrait être une surprise.
Du côté des Blue Jackets, on rentre dans une sélection où c'est encore plus. Tout est ouvert de leur côté. On est quand même bien nanti à plusieurs positions. Hein. Du côté de la défensive, on a Giritschek que tu as mentionné tout à l'heure, qui est un droitier. Dantan Matejchuk, qu'on peut voir présentement avec Moose Jaw, est un gaucher. Après ça, on passe vraiment à un calibre inférieur. Là, on parle des Svozil, Stratman, qui sont gauchers, Carson Coleman's droitier. Mais on a quand même des joueurs actifs dans notre alignement, Provorov, Werenski, qui sont gauchers, qui ont respectivement 27 et 26 ans, Bogvist, 23 ans, droitier. Donc, on a quand même plusieurs éléments. À l'attaque, c'est la même chose. Hein? Fantilli, qui est le gros bonhomme, 6 pieds 2, Ken Johnson, Cole Sillinger, on a repêché dans les dernières années des joueurs de talent, Gavin Brindley, Jordan Dumais. On a quand même beaucoup à notre disposition. Pascal prévoyait que ce soit Caden Lindstrom qui soit choisi par les Blue Jackets, ce qui serait définitivement un scénario crève-cœur pour le Canadien qui suivrait juste après. Est-ce que c'est une sélection qui pour toi est possible? Mathieu, tu t'es muté, malheureusement.
Oh, excuse-moi,
Pas de
Étienne.
problème.
Regarde, tu vois, même dans ton podcast, je fais comme dans le mien, j'oublie
Des petites
toujours.
erreurs.
Oui, ça pourrait être une option, Lindstrom, évidemment. Là, évidemment, si Ivan Demidov n'est pas là. Tu sais, dans la ligne de centre, je peux comprendre qu'on veut rajouter un Lindstrom derrière les Fantilli et tout ça. Chez Ken Johnson, tu sais, c'est... Ça a oscillé un petit peu là, en début de carrière. Là. Il a été renvoyé dans la Ligue américaine l'année passée.
Ça reste un joueur de grand talent. Là.
Exact, mais tu sais, c'est un joueur de finesse quand même. T'sais. Fait que de rajouter cette touche d'agressivité-là en Lindstrom dans l'équipe, dans le pipeline, ben, ça pourrait devenir intéressant justement pour un gars comme Ken Johnson. Moi,
je vais te relancer dans une possibilité et une quand même une notion qui est importante à prendre en considération, c'est celle que présentement, les Blue Jackets n'ont pas de directeur général. Est-ce que l'homme qui va arriver en place, l'homme qui va être choisi pour gérer cette équipe-là, oui, évidemment, il va faire confiance à son équipe de recruteurs. C'est très possible qu'il mette son sceau sur cette sélection-là. Il veut bâtir son équipe. On a déjà vu ça par le passé, des directeurs généraux qui arrivent en place et qui prennent les devants dans une sélection. On n'a qu'à penser, dans l'historique du Canadien, c'est arrivé à quelques reprises, mais possible que le directeur général qui arrive en poste, ben, lui se dise ben, « j'ai envie d'avoir un prototype monstre. Est-ce que ce joueur-là pourrait être Anton Siliaïev, selon toi, même si on est quand même, comme mentionné, bien garni dans l'organigramme défensif des Blue Jackets à gauche? »
En fait, je pense qu'on risque de continuer ce qui a déjà été entamé du côté de Blue Jackets, peu importe qui rentre en poste, parce que on n'est pas nécessairement dans une situation où on reconstruit à Columbus. T'sais, j'ai l'impression que là, on repêche haut, c'est le fun parce qu'on a amené des joueurs dans l'alignement, puis ça ne fonctionne pas, mais on a quand même on a amené des éléments dans les dernières années à Columbus qui laissent croire qu'on veut lutter pour les séries. Là. Ils sont
Ouais,
allés chercher
absolument.
Provorov, ils sont allés chercher Severson.
Gaudreau l'année d'avant, ouais.
j'ai l'impression qu'on va cibler des espoirs qu'on pense qui sont proches de la Ligue nationale. Fait que c'est là que des profils comme Silaïev pourraient être intéressants. T'sais, il joue déjà des bonnes minutes en
Bon point.
KHL. C'est pas parfait. C'est pas un profil, à mon avis, qui est fini pour dire go, on l'envoie dans la Ligue nationale. Mais il serait probablement capable de s'en approcher d'ici un an ou deux à peu près. Puis moi, je vois vraiment plus Silaïev comme un projet de défenseur. Pas strictement offensif. Là. Moi, offensivement, tu sais, j'ai pas trouvé qu'il. En tout cas, il m'a
Maintenant de
pas
réserve,
impressionné
ouais.
tant que ça. Mais tu sais, Denton Mattejchuk, c'est déjà tu sais, de qualité offensive. C'est un défenseur qui est très offensif. David Jiříček, même
Aussi,
chose.
ouais.
Fait que tu sais, Anton Silaïev pourrait venir
Absolument.
un petit peu cimenter tout ça avec le profil qui se dresse pour lui. Puis Caden Lindstrom, ben, c'est un peu la même chose, même si je pense qu'il y a quand même du développement à y avoir dans son cas. Je pense que tu sais, d'ici
On va
deux,
chercher ce
trois ans.
one-two punch-là que tu mentionnais tout à
Ben,
l'heure, là,
c'est
avec un
ça.
Fantilli et un
Avec
Lidström.
Fantilli, c'est ça. Fait que tu sais, j'irais avec deux possibilités. Columbus, ce serait Caden Lindstrom ou Anton Silaïev.
Intéressant. Et le choix des Blue Jackets pourrait avoir un gros impact sur celui du Canadien. Et évidemment, en mentionnant que les Blue Jackets repêcheraient Caden Lindstrom, dans son mock, Pascal a influencé le choix du Canadien. Avant de mentionner le choix que serait celui du Canadien, je voulais avoir ton avis sur le fait que si jamais c'était le contraire, c'était Silaïev qui sortait au rang numéro 4, est-ce que le premier nom qui reste sur la liste, selon toi, pour le Canadien de Montréal au rang numéro 5, c'est Caden Lindstrom?
Oui, c'est à mon avis. Puis c'est vraiment juste mon avis. Je ne sais pas la liste du Canadien ressemble à quoi. La seule chose que je sais, c'est que Ivan Demidov, l'ECH est intéressé envers Ivan Demidov. Ça a circulé beaucoup. Sur TSLH, je l'ai mentionné souvent dans une couple de textes. On m'a déjà dit qu'il était haut dans la liste du Canadien. Fait que tu sais, on n'est pas dans la même situation que Michkov. Fait que dans tous les cas, si Demidov descend, il ne passera pas le cinquième rang.
C'est sûr.
Du moins, c'est ce qui était permis de croire jusqu'à assez récemment. Dans le cas que Demidov n'est pas disponible, ben moi, personnellement, je pense qu'on va pencher pour un Caden Lindstrom qui a le profil de ce qu'on recherche dans l'ère de Kent Hughes depuis qu'il est arrivé en poste. Puis, tu sais, les sélections des derniers repêchages tendent à pointer vers un profil comme Lindstrom aussi.
Si Ivan Demidov et Caden Lindstrom sont les deux premiers choix sur la liste du Canadien, un point à considérer aussi, qui a été mentionné par le directeur général de l'équipe, Kent Hughes, c'est que oui, évidemment, on a besoin d'un attaquant, on veut probablement repêcher un attaquant, mais si jamais qu'il y avait certains défenseurs qui devaient être disponibles, on pourrait être tenté de le prendre. Là, on rentre dans un scénario où sur les quatre premiers choix, il y en a trois voire quatre attaquants qui sont sélectionnés, ce qui laisse potentiellement un Artem Leshunov libre au rang numéro 5. Peut-être que c'est le choix que Kent Hughes avait en tête, peut-être que non non plus. Le rendu là, c'est de la spéculation, mais cette possibilité-là est sur la table. On rentre quand même dans des probabilités un petit peu plus minces, puisqu'on a mentionné qu'il y a au moins deux, peut-être voire trois équipes qui ont vraiment besoin d'un Leshunov dans leur équipe. C'est peu probable qu'il glisse, mais cette option-là existe. Ensuite, si jamais on rentre dans une situation où Lidstrom n'est plus libre, si Demidov n'est plus libre, Pascal a prévu pour le Canadien le choix de Tage Higginla, qu'on a pu voir avec le Rocket de Kelowna cette année, qu'on a vu avec le Canada, dans le championnat des moins de 18 ans récemment. C'est un joueur qui a gagné énormément. Premièrement, en popularité, mais aussi en confiance. Il a démontré de l'amélioration constante au fil de l'année. Est-ce que tu serais confortable avec cette décision-là, toi?
Absolument. T'sais, c'est sûr que là, si je me fie à ma liste personnelle, je
Sur le
militerais
plus
pour
bas, ouais.
Cole Iserman. Mais
Compte
écoute,
tenu de.
comment je pourrais dire, le Canadien étant allergique au talent, ils vont passer par-dessus Cole Iserman.
Probablement.
Non, non, mais non, mais t'sais, sérieusement, c'est juste que il y a plusieurs indicateurs qui prouvent que Cole Iserman va descendre au draft. Fait que t'sais, à un moment donné. Moi, je l'accepte. Je comprends qu'il va descendre, mais c'est juste que dans 5 ans, quand je vais l'avoir 3 sur ma liste, ben, je vais pouvoir dire que tout le monde a passé par-dessus lui.
Et n'en déplaise à Simon Servant qui l'aime beaucoup, qui le voit dans sa soupe, et on aura la chance de lui parler pour qu'il nous probablement le meilleur. la personne la mieux placée pour nous parler de Cole Eisenman, mais vient peut-être moins cocher certaines cases que le Canadien a besoin. On est des plus petits joueurs, on a peut-être besoin de cette identité petit guerrier qui est capable de marquer, qui a beaucoup de potentiel offensif. Et on sait, il vient d'une famille très, très sérieuse. On sait ce que, évidemment, il n'est pas son père, mais il vient avec une éthique de travail quand même irréprochable. Donc, Eginla cocherait peut-être plus de cases qu'un Eisenman, qui resterait quand même une sélection intéressante, peut-être moins dans les besoins de l'équipe.
Non, c'est ça. Puis tu l'as dit, Étienne, TJ Ginla, il coche beaucoup de cases. C'est un gars qui, autant je le vois pas comme un marqueur de 90 points dans la Ligue nationale, je suis peut-être pas aussi high sur son plafond offensif que plusieurs, là. Mais tu sais, un joueur comme Ginla qui en carrière va frôler le 60-70 points, tu sais, ce gars-là va avoir un impact en dehors des points qu'il va accumuler, là. C'est un gars qui rend les joueurs meilleurs sur son trio de par son échec avant, par toutes les petites tâches que des fois des joueurs élites ne vont pas s'acquitter. Lui, il va aller les faire, tu sais. Il va aller en échec avant, il va récupérer des rondelles. Puis il y a une quarantaine de buts cette année dans le junior, mais il ne faut pas mettre de côté son talent pour créer des jeux puis pour alimenter ses coéquipiers. C'est un gars avec ses mains puis avec sa vision du jeu qui attire énormément l'attention de l'adversaire, ce qui fait en sorte que ses coéquipiers se libèrent assez aisément. Puis TJ Ginla, il est capable de, justement, créer ces jeux-là. Fait que, tu sais, au-delà de la feuille de points, TJ Ginla, c'est le genre de joueur que tu veux avoir en série, qui a cette capacité-là d'endosser une pression puis d'endosser du jeu physique. Fait que tu le mets à côté de Suzuki puis de Caulfield, puis je veux dire, c'est ça va être tout qu'un
recette
trio,
gagnante,
là,
le gâteau va lever. deux noms pour conclure sur le Canadien. Et là, Matt, tu vas possiblement en rassurer ou en énerver certains. Je veux parler de Beckett Seneke, qu'on voit peut-être à tort et à travers, ou à juste titre, vraiment défiler l'actualité récemment. Oui, c'est un joueur qui connaît des bonnes séries éliminatoires. Malheureusement pour lui, son équipe risque d'être éliminée incessamment en finale de la OHL. Ça reste un joueur qui a démontré des belles choses en série. Les gens ont commencé un petit peu à anticiper sa sélection, puisqu'il y a un recruteur dans la liste, justement, la fameuse liste de Bob McKenzie, il y avait un recruteur qui le plaçait cinquième. Et là, certains gens ont fait des associations. Canadien repêche cinquième. Un recruteur le classe cinquième. Est-ce que ça pourrait être le Canadien qui est tenté de repêcher ce gros attaquant marqueur? Selon toi, est-ce que c'est une possibilité ou, oui, il est probablement sur la liste du Canadien, mais probablement plus loin que les gars qu'on vient de mentionner?
Ben, je commencerai par dire que Beckett Seneca, c'est un excellent espoir. Honnêtement, dès mes premiers visionnements, moi, je l'ai embarqué dans mon top 32. Je ne l'avais pas suffisamment vu pour le voir, pour le mettre très haut déjà en partant. Je sais que mes collègues au TSLH Espoir, tu sais, ils ont vraiment aimé son profil encore plus rapidement. Au mid, je l'avais 19, je pense, à peu près. C'est un joueur qui est excellent. Il est très hargneux pour aller chercher la rondelle puis la conserver aussi. C'est un gars là, que tu peux qualifier comme un gars qui... La rondelle lui colle à la palette. Fait que pour ça, moi, je suis totalement vendu avec le choix des Jets s'il descend là. Puis si t'es capable de monter légèrement. Mais au cinquième rang, pour moi, c'est tôt pour
Il y a trop de
Beckett
bons joueurs
Seneca.
disponibles.
Il y a trop de bons joueurs disponibles. Je pense que moi, j'aime mieux le profil de TJ Ginla que le profil de Beckett Seneca. Seneca, au niveau de son patin, je trouve qu'il n'est pas. Puis je trouve ça drôle, hein, parce que j'aime ça que tu m'amènes sur ce sujet-là, parce que j'ai écrit son profil aujourd'hui, là, au moment d'enregistrer. Fait que probablement, quand l'épisode va sortir, son profil là, va être tout chaud, tout frais, sorti
Vous
du
irez
four,
le
là,
voir
surtout sur le
tout sur
hockey.
le hockey, oui, absolument.
C'est ça. Fait que, tu sais, moi, son patin, j'ai des gros doutes.
Parce
Puis je veux pas.
excuse-moi de te couper, mais il y a une certaine réputation qui va être faussement donnée à un espoir à un certain moment. Et je pense qu'il faut faire attention ici. Les gens vont entendre parler d'un espoir, ils vont l'entendre il va être hypé par la situation. Les gens vont aller voir les statistiques et là, ils vont être déçus sans vraiment avoir connaissance de cause si l'espoir et d'une qualité suffisante pour être repêché 5-6. Donc là, c'est important pour ça. C'est pour ça que c'est important d'approfondir nos connaissances et avant d'y aller d'un jugement, de regarder justement des espoirs un petit peu plus complets plutôt que juste la feuille de statistiques. Là, je pense que c'est quand
Ben
même un élément important lorsqu'on parle d'espoir ici, là.
ouais, tu sais, c'est que là, ce qui arrive avec Beckett Seneca, c'est qu'il y a un recruteur à quelque part dans la liste de Bob McKenzie qui le place 5, comme tu expliquais
Qui
tantôt.
l'aime beaucoup.
Puis là,
Trop.
après ça, tu as Grant McHagg qui surfe là-dessus puis qui dit
C'est
que
ça.
Beckett Seneca, c'est un top 5. Puis là, après ça, tu as tout le monde qui vient dire: Ah, mais il est meilleur qu'Higuain, il est meilleur que ci, parce que là, il y a un recruteur qui l'a dit, fait qu'on va s'approprier cette opinion-là. Sauf que j'ai pas vu personne sur la toile venir expliquer c'est qui ce joueur-là, Beckett Seneca-là.
Pourquoi il est meilleur que tel, 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 ouais.
Pourquoi il est meilleur qu'un autre? Pourquoi tu en parles là? Quand ils jouent exactement de la même façon depuis le début de
Oui,
l'année,
c'est
c'est
vrai.
juste qu'à la fin de la
C'est vrai.
saison, on a décidé de l'enlever du trio de Rasmus Kumpalainen, puis c'est Lockhart qui jouait avec. Puis là,
Pour
on
le
a
mettre
formé un
avec
premier trio composé de Lockhart, Seneca et Richie.
Richie, ouais.
Puis
Ça a
Carl
fonctionné.
Richie, toute qu'une saison cette
Ouais,
année.
ouais,
L'année
ouais.
passée, il y avait des petites inquiétudes sur son offensive, puis cette année, oublie ça, là,
Ah, il a
il
explosé.
Tout est là. Fait que tu sais, t'as une offensive qui explose soudainement quand tu te fais placer avec Richie, mais quand tu regardes froidement, là, tu sais, on parle de stats, là, on va en parler de stats, là, Étienne, là. Beckett Seneca, là, il a produit au même rythme que l'année passée dans WHL.
Ouais.
C'est sa deuxième saison dans WHL, puis il produit au même rythme. Puis si on compare ça à peu près avec du monde dans son équipe, là, Ben Danforth, un défenseur défensif, a eu la même progression statistique l'année passée versus cette année que Beckett Seneca. C'est un défenseur défensif qu'on projette pour la troisième ronde à peu près, là. Puis Luca Marelli, un défenseur offensif des Generals d'Oshawa, lui, là, il a à peu près 30 points de plus que l'année passée. Puis c'est un défenseur qu'on projette en troisième ronde. Fait que tu sais, t'as un défenseur défensif qui a la même progression statistique que Seneca, puis t'as un défenseur offensif qui a trois fois la progression de Seneca. Les deux autres sont projetés en troisième ronde, puis Seneca sera en cinquième rang. T'sais, là, je parle juste statistique.
C'est là que ça fait un petit peu moins de sens, là,
C'est ça.
définitivement. Pour conclure sur le choix du Canadien, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, selon toi, le Canadien ne prendra pas ce joueur. Un joueur que, personnellement, j'adore, je regarde assidûment depuis le début de l'année, ça de le suivre le plus possible. On parle ici de Berkeley Catton, et là, on entend souvent. Il est petit, le Canadien a trop de joueurs. Pourquoi on serait. Il n'est pas bien plus petit qu'Ivan Demidov. Pourquoi est-ce qu'on serait si prêt à prendre un Ivan Demidov? Oui, Catton est probablement moins de potentiel qu'un Demidov, mais pourquoi est-ce qu'il est si rapidement exclu de l'équation populaire? Peut-être qu'à l'interne, le Canadien l'aime et on en entend moins parler, mais pourquoi, selon toi, c'est une sélection qui cadrerait moins bien?
Ben, je vais maintenir la comparaison de Demidov et Catton. Mettons, Demidov, pour son gabarit, je trouve qu'il évite beaucoup les zones à risque pour après ça revenir récupérer de l'espace puis être dominant. Fait que tu sais, il coupe au centre, mais il ne se met pas à risque. Il a les mains, il a la mobilité pour ne pas se mettre dans le trouble puis demeurer menaçant pareil. Quand on regarde du côté de Catton, il attaque le centre aussi, mais il attaque les défenseurs de front en se disant je vais les traverser, puis ça ne fonctionne pas. Fait que tu sais.
Je vais te poser une question, Mathieu. Est-ce que ça se peut que Catton joue de cette manière parce que justement, il veut un petit peu trop en faire au sein de son équipe s'il était mieux encadré? Penses-tu? Ou c'est vraiment dans son ADN? C'est peut-être pas le joueur qui prend les meilleures décisions à l'offensive, qui reconnaît mieux ce qui se passe devant lui, ou parce que justement, il s'en met trop sur les épaules? Est-ce que ça se
Ouais,
peut qu'il y ait un peu de ça, là?
Oui, je pense que tu as raison, Étienne. Il y a quand même une partie de ça, là. Berkeley Catton, il est laissé à lui-même. Fait que tu sais, il faut qu'il soit impliqué dans la sortie de zone, dans la transition en zone neutre. C'est lui qui est le puck carrier pour rentrer la rondelle en zone ennemie. Puis après ça, il faut qu'il installe l'offensive. Il faut pas mal qu'il fasse tout d'un bord à l'autre. Mais tu sais, Catton, tu sais, je trouve qu'il serait, il est beaucoup plus efficace une fois que le jeu est installé puis que là, il contrôle le jeu. Mais en entrée de zone, je trouve encore que c'est difficile. Puis quand tu n'as pas le gabarit pour effectuer des entrées de zone, tu sais, de façon efficace, tu sais, je vais te donner un comparatif. Puis c'est vraiment pas pour comparer les deux joueurs, là, vraiment pas. Mais tu sais, Sean Farrell en NCAA, il était excellent pour rentrer la zone, la rondelle en zone ennemie.
Intéressant.
Ses entrées de zone, là, autant par la passe que par le maintien, la possession de rondelle, que c'était lui qui rentrait la rondelle dans la zone, il est excellent pour le faire. Rendu dans la Ligue américaine, c'est difficile.
C'est difficile, ouais.
C'est difficile parce que le jeu se ferme, les systèmes sont un petit peu plus différents, les défenseurs sont plus gros, sont plus mobiles. Fait que là, tu as moins d'espace pour manœuvrer. Fait que moi, c'est un peu là-dedans que mes inquiétudes résident dans le cas de Catton. Puis c'est en rien, tu sais, c'est un gars là, que son plafond offensif il est vraiment haut.
Très élevé, ouais.
Sauf que la distance entre le plancher et le plafond, je la trouve un peu large
OK, intéressant.
pour y aller, tu sais, d'une sélection de Catton. Puis c'est là que tu sais, tu te dis, l'évaluation plancher-plafond, s'il mesurait 3 pouces de plus, je serais à l'aise avec. Parce que, tu sais, on irait développer certaines choses et tout. Mais là, en ayant un petit gabarit, c'est un petit peu plus difficile à projeter, je trouve.
C'est ce qui met fin justement aux possibilités chez le Canadien. Donc, on a parlé de Lidström, on a parlé d'Iginla, on a parlé de Seneke, Yzerman, Katten. Reste que on ressort que probablement que oui, Demidov, Lidström, ça serait probablement les plans 1A, 1B, mais qu'après, la sélection d'un TJ Iginla serait quand même forte, réussie du côté du Canadien. Pour les prochaines équipes, on va défiler un petit peu plus rapidement. Du côté de la nouvelle équipe de Utah, qui n'a toujours pas de nom, TSLH prévoyait la sélection de Zane Parikh. Et là, c'est intéressant parce que là aussi, ça vient. C'est un ex, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, excellent défenseur offensif. Lui-même dit hein, c'est le meilleur défenseur offensif de ce repêchage-là, rien de
Il
moins.
manque pas de confiance.
Manque pas de confiance, mais quand même une confiance bien placée peut justifier quand même ses dires. On a des bons jeunes à l'attaque, Dylan Gunter, Daniel Booth, Don Geekie, qui est le joueur de centre l'année passée. On a repêché Dmitri Simashiev, on a Maverick Lamoureux, droitier, Victor Soderstrom, droitier aussi, mais qui tarde un petit peu à se développer. Mais là, justement, ce qui manque un petit peu dans cette organisation-là, c'est un défenseur qui va vraiment bien bouger la rondelle, qui va gérer ton premier power play, qui possiblement va être sur ta deuxième paire de défenseurs, mais qui va mettre des points sur le tableau. Zane Parikh, ça semble le choix parfait, là.
Oui, c'est clair. Puis, tu sais, je pense que la projection est juste aussi, là, défenseur de, mettons, un top 3, là, tu sais, soit deuxième paire ou première paire, mais clairement va gruger toutes les minutes dans l'avantage numérique. Fait que, tu sais, Zane Parikh, tu as déjà repêché des Maverick Lamoureux, des Dmitri Simashev, que c'est des très gros gabarits. Dans les dernières années, les Coyotes ont repêché beaucoup de gros joueurs, tu sais, les
Ouais.
Geekie, tu l'as nommé, puis les Daniel Booth aussi, les 6 pieds 6.
Est-ce que ça se pourrait qu'on veuille justement agrémenter à cette filière de gros Russes-là, puis qu'on y aille avec un Siaiev ou on serait vraiment moins dans quelque chose qui aiderait notre équipe, là?
Moi, je suis de l'école de pensée que ça te prend de toutes sortes de profils pour créer
Absolument.
une équipe
100%
aspirante. Fait que,
d'accord.
tu sais, si Laiev rentre un peu dans le profil d'un Lamoureux, d'un Simashev, fait
Tout à fait.
que je préférerais un Zane Parikh. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de la connexion Bédard-Parikh, potentiellement, là. La connexion Coulet-Parikh,
Ouais.
serait pas dégueulasse
Ouais.
quand même.
Je ne l'avais même pas mentionné dans les bons jeunes attaquants parce qu'il est déjà un petit peu plus établi. Là où la sélection de Siaiev fait quand même pourrait vraiment bénéficier cette organisation-là, ben ce sont les sénateurs d'Ottawa au rang numéro 7. C'est justement là qu'il est placé dans le mock draft, pardon, de Tout sur le hockey. lorsqu'on regarde un petit peu la situation des sénateurs, en attaque, on est bien garni, on possède quand même beaucoup de bons éléments diversifiés. En défensive, autant que ça pouvait être un élément positif il y a quelques années, là, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation qui ressortent. Dernière année de contrat pour Jacob Chychrun. Jake Sanderson est un gaucher, il est bien établi, il a 21 ans, mais après ça, c'est un petit peu mince. Hein? Jacob Bernard Docker, son étoile un petit peu pâlie, il a 23 ans, c'est un droitier, mais n'a vraiment pas le potentiel d'une première paire. Ensuite, on a un Tyler Cleven, mais probablement le meilleur espoir de l'équipe qui n'est pas dans la LNH, fait bien dans la Ligue américaine. Mais c'est tout. Donc, Siliaïev, quant à son profil de gros défenseur mobile, vient définitivement combler un besoin du côté des sénateurs.
Oui, puis tu sais, moi, j'aurais peut-être parlé de Sam Dickinson dans ce rang-là.
Ouais.
Sam
Légitimement,
Dickinson, là,
ouais.
Honnêtement, c'est moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur défenseur de cette cohorte-là.
Ouais.
Parce qu'il est efficace dans tout, mais c'est un profil un peu similaire à Jake Sanderson, peut-être. Fait que, c'est pour ça qu'on parlait d'avoir plusieurs profils différents. Un gars comme Anton Siliaïev, t'as pas ça avec les sénateurs présentement. Puis, tu sais, si tu prévois développer Siliaïev comme un bon défenseur two-way physique qui est capable de punir son adversaire le long des rampes, ben, repêche-le parce que s'il est là, il faut que tu sautes dessus. T'as pas ça avec les sénateurs dans l'organigramme présentement.
Au rang numéro 8, ce sont le Kraken de Seattle, qui n'est pas dans la LNH depuis bien longtemps, mais qui se bâtit quand même une belle brochette d'attaquants ayant un potentiel intéressant. On parle ici de Shane Wright, Carson Rekoff, Jagr Furkus, Édouard Chalet, tous des attaquants. Du côté de la défensive, c'est vraiment mince. Hein? On n'a pas investi nos meilleurs choix sur la défense. C'est correct, ça fait juste deux repêchages qu'ils ont fait dans la LNH. Mais lorsqu'on regarde leur meilleur espoir défensif, on parle de Ryker Evans, Ty Nelson. C'est loin d'être des futurs trophées Norris. Donc, heureusement, il reste quand même beaucoup de défenseurs de qualité. On passe quand même justement, c'est ce qui rend, je pense que les gens commencent à le comprendre, cette année, beaucoup de bons défenseurs on pourrait légitimement avoir 6 voire 7 défenseurs qui sont dans le top 10. Et tu viens de parler de Sam Dickinson, je pense qu'il fait tout son sens du côté du Kraken de Seattle. C'est un gaucher, on n'en a pas dans l'organisation. Tu viens de le mentionner, le meilleur défenseur pour toi. On le voit en ce moment avec London. Ils sont en train de tout détruire. Bonne chance à toutes les autres équipes de la Ligue canadienne contre eux à la Coupe Memorial. Donc, c'est vraiment un choix qui serait très intéressant pour Seattle.
Ouais, puis le Kraken, ça fait pas longtemps, comme tu dis, qu'ils sont là. Puis dans leur stratégie de repêchage, semble vraiment pencher pour le joueur le plus talentueux qui est présent sur la table. T'sais, moi, personnellement, je n'étais pas très vendu à Ty Nelson et à Jagr Furkus,
Non.
mais reste qu'au niveau talent individuel,
Au rang où ils les ont pris,
au
ça avait
rang
de
où
l'allure.
ils ont pris, ça faisait beaucoup de sens. Fait que, tu sais, d'après moi, on va pencher pour le meilleur joueur disponible. T'sais, en tout et partout, Sam Dickinson répond à un besoin et aussi au meilleur joueur disponible. Mais est-ce qu'ils vont nous surprendre puis aller avec un Cole Iserman aussi? Ça se pourrait. Dans tous les cas, moi, je vais pouvoir te dire Cole Iserman à tous les rangs parce
Oui,
que je trouve que
ça
ça
se
n'a pas de bon
pourrait
sens qu'il
qu'il
descende
laisse
à ce
autant, oui.
point-là. Mais c'est ça, je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet-là parce qu'on le sait qu'il va descendre.
En tant que défenseur, selon toi, est-ce que pour toi, tu ne vois pas Sam Dickinson glisser tout plus loin? Ou il y en a d'autres? Je vais te nommer deux noms, là, Carter Yastrzemski, Zdeněk Bayem. Est-ce qu'il y en a un des deux, selon toi, qui peut devancer Dickinson et être le choix du Kraken?
Si je me fie à ma liste, non. Je te
Oui.
dirais, je pourrais comprendre les sélections. Rendu là, c'est ma liste étant ma liste. La liste des recruteurs est celle du Kraken, la liste d'élite prospect. Je veux dire, chaque observateur a sa propre liste. Fait que, si le Kraken repêche Zdeněk Bayem ou Carter Yastrzemski, je peux parfaitement comprendre. C'est fort
Ils vont
possible
avoir
qu'il y
des
ait ces défenseurs.
préférences.
C'est ça, c'est tes défenseurs-là en premier. Puis tu sais, comme je disais tout à l'heure, la différence entre les espoirs n'est pas énorme. Il y a des profils différents de joueurs cette année. À quelques exceptions près, il y a certaines similarités, certaines différence dans les profils, mais l'écart de potentiel n'est pas si énorme. Fait que, oui, je pourrais comprendre que Ziv Boyum ou Yakenchop sort à ces rangs-là.
Tu m'as mentionné avant qu'on débute l'épisode qu'il y avait possiblement quelques choix dans le mock draft de Pascal qui n'étaient un petit peu qui ne représentent pas tout à fait tes choix, c'est 100% normal. Mais possiblement que tu me le diras si c'est le cas, mais possiblement que c'est le cas au numéro 9 où les Flames aimeraient bien évidemment voir TJ Ginla. Mais ici, on a placé Beckett Seneca. Et on est dans une situation où les Flames sont en une semi-reconstruction. On veut quand même rester compétitif, mais on a quand même des gros besoins. En attaque, on a quand même plus d'éléments. Connor Zary, Jacob Pelletier, Mathieu Coronato, Samuel Hontzek. En défensive, le meilleur espoir, ben, on l'a acquis via les Canucks en Hunter Buštević. Défenseur droitier, c'est quand même tout du côté des Flames. Donc, ici, est-ce que tu vois vraiment Calgary mais passer justement un résumé encore une fois, mais aussi passer un défenseur. Oui, je sais qu'on voudrait probablement repêcher Ginla, mais est-ce qu'on va vraiment aller vers une genre copie conforme un peu moins intéressante de lui en Sénéquais? Donc, quand même plusieurs éléments intéressants à surveiller de ce côté-ci, là.
Ben, tu sais, c'est moi, avant de prendre Seneca, je le prends Cole Iserman assurément. T'sais, tu l'as dit, les Flames, ils ont quand même besoin d'un peu de tout. On n'est pas nécessairement dans une reconstruction assumée. Tu as les Huberdeau qui sont là encore. T'sais, on a de la misère à amener Jacob Pelletier dans l'alignement parce qu'on n'assume pas la place qu'on veut faire aux jeunes. T'sais, rendu là, prends le plus talentueux, puis
Mais est-ce
au
qu'on peut
pire, il te
vraiment.
servira.
T'sais, on a échangé un Zadorov récemment, on a échangé Noah Hannafin. Je viens de mentionner Buštević, ton meilleur espoir. On peut-tu vraiment passer un Beaulieu, un Yakimchuk quand notre filière à la défensive est aussi peu garnie? Est-ce qu'on se dit, ben, à l'année prochaine, on espère avoir un top 10, sinon on perd notre choix en passant. Mais on espère remettre ça à l'année prochaine ou peut-être une autre sélection dans le repêchage. Reste que cette année, c'est une bonne année pour prendre un défenseur top 10.
Oui, ben c'est clair. Puis tu sais, je veux dire, il y a Kemchuk qui a joué son junior à Calgary. Là. Fait que d'après moi, il serait bien content
Le
que les Flames
lien
le
est
prennent.
là. Ouais.
Mais tu sais, pour revenir au choix qui est sur le mock draft à Pascal, puis tu sais, salutations à Pascal. L'émission n'est pas faite en sorte qu'on trash ton mock draft.
Du
Je
tout.
vais le trasher dans le TSLH
Ça
podcast. Comme ça.
t'en permettra un
Non,
peu
mais tu sais,
plus.
c'est que moi, personnellement, je trouve que Michael Brancic-Nygaard, c'est un meilleur espoir que Beckett Seneca. Fait que pour moi, tu sais, que les Flames prennent Beckett Seneca, je comprends les tractations présentement qui se font pour cet espoir-là, mais quand on regarde l'entièreté de la cohorte, c'est pas parce qu'un joueur, on a appris qu'il existait depuis 2 semaines, que là, c'est la plus belle invention. T'sais. On a l'air surpris de Beckett Seneca comme on avait l'air surpris des aurores boréales là, la fin de semaine passée. Là, t'sais, je veux dire,
Bon parallèle.
il y a beaucoup d'espoirs qui sont de meilleure qualité. Berkeley Catton rendu là avec les Flames, tu peux le prendre aussi. Là.
Définitivement.
Il n'y a aucun problème à prendre ce gars-là. T'sais, si tu ne veux pas l'assumer, ta reconstruction, ben, prends une chance de coup de circuit avec Berkeley Catton.
Et ça rentre justement dans cette optique-là que toutes sortes de possibilités. À chaque année, on est surpris de certains joueurs qui se faufilent dans le top 10. Bien, ça risque d'être le cas encore une fois cette année. On a parlé justement de cette glissade de Cole Iserman. Mais là où je suis 100% d'accord avec Pascal, bien, les Devils, et on a entendu certains éléments comme quoi les Devils seraient prêts à échanger leur choix. Mais si on a un Cole Iserman qui glisse jusqu'à eux, on doit le sélectionner. On est quand même, on est bien nanti un petit peu partout, mais c'est un marqueur naturel comme Yzerman pour être un complément parfait à un Jack Hughes qui est un centre prolifique, mais je pense qu'on pourrait avoir une association et il pourrait possiblement réussir où Alexander Holtz n'a pas encore réussi, possiblement que ça va venir, mais il commence un peu à se faire tard dans son cas là. Ça serait vraiment une sélection intéressante des Devils de Cole Iserman.
Ouais, puis tu sais, tu l'as dit, là, la combinaison avec Jack Hughes est facile à faire, mais tu sais, à la limite, si Cole Iserman est sur ton deuxième trio avec un Dawson Mercer, ben lui, c'en est un aussi qui aimerait bien ça, avoir un marqueur de but comme ça à ses côtés, tu sais, pour se relancer, justement. Tu sais. Fait que, pour moi, ça fait pas de doute, là. Moi, Cole Eiserman qui sortirait du top 10, ça me ferait capoter. Tu sais. Je veux dire, on en a parlé dans le podcast. Tu sais. Cole Caulfield, il est descendu en dehors du top 10 parce que c'est un petit joueur, marqueur de but. Puis là, on essaie de faire des associations avec Cole Eiserman, mais Eiserman, il coupe au centre,
C'est
il est
pas le
plus
profil
gros.
pareil, ouais.
C'est ça, tu sais, OK, il y a des lacunes. Ça, les lacunes qu'on pointe vers Eiserman, je suis 100% là-dedans. Je les vois moi aussi, mais je veux dire, c'est un marqueur naturel. C'est quoi le but au hockey? C'est de marquer des buts à un moment donné, puis lui, il est capable de le faire, puis de plusieurs façons, puis dans des façons qui sont faciles à projeter dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. La glissade, faut qu'elle s'arrête au dixième. Il n'y a pas le choix.
Je vais compléter rapidement le top 15 du mock draft de tout sur le hockey. À la position numéro 1, ben les 11, pardon, les Sabres repêcheraient Carter Yastrzemski. On aurait quand même tout un top 4 là, avec Power, Dalin et son nom m'échappe, mais l'acquisition de
Bowen
l'Avalanche.
Byram.
Bowen Byron, merci.
Yes.
Merci, mon Dieu, ça m'est sorti de la tête. Ensuite, en 12e, Steve Beaulieu, qui est un joueur quand même complet, bon patineur, on l'a vu là, avec Denver, obtenir beaucoup de succès. Position numéro 13, un joueur qu'on n'a pas parlé. Et quand même, j'aimerais que tu me dises quelques mots. Costa Hellenius, parce que je l'ai vu quand même aussi haut qu'au 3 ou 4e rang, je pense 4e rang, pardon. J'ai vu dans un mock que les Blue Jackets. Écoute, selon l'auteur de ce DMOC, le sélectionnerait. Mais est-ce que apparemment, c'est un des joueurs qui est le plus NHL ready. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là?
Oui, puis non. Tu sais, j'ai pas la prétention de l'avoir côtoyé ni rien, là. Fait que, je sais qu'Olli Jokinen, son coach, c'est pas mal lui qui a dit que son intelligence à Konstantin Hellenius lui fait rappeler un Pavel Datsyuk dans le temps. Tu sais, puis je peux quand même comprendre parce qu'en Liga, il a été capable, tu sais, de s'adapter assez rapidement. Une ligue qui est pas nécessairement facile à s'adapter, puis tu sais, il a été capable de produire offensivement pareil. C'est un gars qui est très bon sur 200 pieds. Il est très intelligent avec la rondelle, sans la rondelle aussi. Mais tu sais, quand il revient avec des joueurs plus jeunes, c'est difficile pour lui, je trouve. Puis là, je me demande, tu sais, est-ce que c'est parce que ça va pas assez vite pour lui? T'sais, il est-tu trop intelligent pour jouer avec des joueurs de son âge? Parce qu'en Liga, ça allait super bien. T'sais, il y a eu une bonne fin de saison, il y a eu des bonnes séries. Fait que, je me dis, ben OK, peut-être qu'il y a l'intelligence justement pour jouer avec des plus vieux, ce qui me fait penser que oui, effectivement, il pourrait être prêt pour jouer dans la Ligue nationale. Sauf que moi, ce que je vois en Hellenius, enfin, tu sais, le Hellenius explosif offensif qu'on a vu l'année passée était peut-être un petit peu moins là cette année. Fait que, tu sais, un bon joueur two-way de 40-50 points par année. C'est une bonne prise en première ronde. En passant, on ne repêche pas des joueurs en
Absolument.
première ronde qui font automatiquement 80 points. Là. C'est ça, il faut s'enlever ça de la tête. C'est un gars de bon. C'est un gars two-way de 50 points. Très bonne prise en première ronde. Mais est-ce que je prendrais ce type de joueur-là dans le top 5, dans le top 7?
Ça serait tôt un
Je ne suis
peu, ouais.
pas sûr. J'arriverais 10e à peu près. Là, je commencerais à être à l'aise,
Au rang
dépendamment qui
du, ouais.
descend. Là,
Au rang du Wild, à la position numéro 13, ça serait une excellente sélection de leur
c'est
côté.
ça.
Ce qui ne serait pas une surprise, ben, ça serait de voir malheureusement Barkley Keaton glisser. Ben, c'est une tendance depuis quelques années dans la LNH. Les petits joueurs talentueux, Cole Caulfield, Zach Benson, Barkley Keaton, ben, ça ne serait pas une surprise de le voir glisser hors du top 10. Mais là, si jamais il se retrouvait avec les Sharks de San Jose au rang numéro 14, ben là, on vient d'aller se chercher Macklin Celebrini et Barkley Keaton. Je pense qu'on aurait on serait setté à l'attaque pour un bon moment. On aurait vraiment là, deux joueurs à énorme potentiel qui pourraient possiblement bien se complémenter. Ça serait vraiment une belle optique pour les Sharks. On va arrêter à ce rang 14-là. Non, je une petite blague, Mathieu, parce que le 15e. C'est Michael Branson-Nygaard que tu aimes beaucoup, que tu affectionnes. Et du côté des trois, on dirait qu'on rentrerait une continuation par rapport à ces attaquants, oui, talentueux, mais travaillants, difficiles à affronter suite à Nate Danielson qu'on a sélectionné l'année passée aussi. Donc, on semble vouloir se créer une chimie, une identité de joueurs difficiles à affronter du côté des Red Wings, mais ça serait un bon complément de ce côté-là. Évidemment, le mock draft, c'est un exercice agréable à faire. Hein. On se projette un petit peu, on se met dans la peau des dirigeants par rapport aux besoins, par rapport au talent des joueurs, et il reste que quand même, surtout dans le cas du top 10 et évidemment dans le cas du Canadien, on a quand même pu cibler les joueurs qui devraient être au sommet des listes de ces équipes-là. Et ça donne un petit peu une idée de ce à quoi pourrait ressembler le repêchage. Mais comme mentionné, il y a tout le temps des surprises. Et c'est ce qui rend la beauté de la chose. Qu'un mock draft, on fait ça pour le plaisir. Mais souvent, on est quand même assez loin de la réalité. Puis, c'est encore une fois, comme je mentionnais, c'est ce qui rend le tout intéressant.
Exact. Puis, tu sais, si je peux me permettre là, un petit aparté sur ton commentaire pour Brandsen Nygaard puis Berkeley Catton, moi, je les inverserais dans le mock draft.
Ouais,
moi, je mettrais, là, tu sais, San Jose, là, t'as des
Kasper
Altunen, t'as Quentin Musty, Will Smith, après ça, t'as
Celebrini,
c'est un bon two-way, là, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs de finesse, des marqueurs, du talent offensif. Ça manque de papier sable un petit peu là, dans le pipeline. Rajoute un Brandsen Nygaard. Là, ça, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a un solide tir. Puis Berkeley Catton, à l'inverse, quand les Red Wings repêchent que des joueurs papier sablé puis ça, semble un petit peu de pop offensif là, avec Catton. Ça serait intéressant. Moi,
ton point
j'ai
est bon.
Un peu.
Toujours opportuniste, Mathieu, de monter Brandsen Nygaard quand c'est possible. Jusqu'où va-t-il aller? Ben, on va le voir dans ta liste. Ça va être intéressant de suivre. Mais ça, c'est un autre élément qui s'en vient. Tout sur le hockey espoir. On va voir vos listes sortir dans les prochaines semaines. On va avoir beaucoup, beaucoup de contenu de votre côté en prévision du repêchage du 28-29 juin, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Donc, beaucoup de belles choses qui s'en viennent de votre côté. C'est le gros du travail. C'est Noël. Hein? C'est Noël pour vous. Vous allez nous donner vous allez nous offrir vos listes en cadeau. Beaucoup d'éléments quand même à surveiller. Comment tu entrevois les prochaines semaines? Parce que là, on termine les séries éliminatoires dans la Ligue canadienne. Il va rester la Coupe Memorial où il va y avoir quelques espoirs, mais on tire à sa fin en tant que contenu disponible.
Oui, exact. Ben, tu sais, nous, avec notre plateforme de scouting, on rattrape un petit peu les séries, tu sais, en Europe qu'on n'est pas en mesure de suivre dans le day-to-day. Tu sais, c'est impossible de suivre toutes les séries au jour le jour. Fait que, tu sais, on rattrape beaucoup. Le U18 est derrière nous. Là, on ferme un peu nos observations de séries, mais tu sais, c'est vraiment juste pour nous donner un deuxième look, les séries, puis de voir comment les espoirs se débrouillent dans un contexte de séries, parce que les profils restent sensiblement les mêmes. Tu sais. Fait que, non, les listes vont sortir bientôt. Puis, tu sais, on a une couple de podcasts aussi prévus là, pour Mock Draft, le War Room, comme on a à chaque année. Puis, on va avoir nos listes personnelles qu'on va faire en vidéo également. Fait que, non, on travaille bien fort d'ici le repêchage. Ouais, ouais, ouais.
Vous n'allez pas chômer. Donc, beaucoup d'éléments très intéressants à suivre. De notre côté, j'ai dans l'optique de refaire un épisode où on présente le plus d'espoir possible. Ça va être une belle occasion, Mathieu, de se reparler justement, de rentrer un petit peu plus en profondeur sur les espoirs, qui ils sont, ce qu'ils amènent, et de laisser un petit peu l'aspect des équipes de la LNH de côté. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Les gens avaient apprécié aussi. Donc, ce sera sur le menu de notre planification d'ici le repêchage. J'aimerais encore une fois te dire un gros merci pour ta participation. Belle discussion. Je pense qu'on on a donné quand même une idée intéressante aux gens de ce qui s'en venait. Et c'est avant tout un avant-goût toujours très agréable pour le repêchage, parce que mon Dieu, que c'était intéressant de suivre tout ça. Vraiment, vraiment très passionnant d'être dans cet univers des espoirs-là. Là.
Yes, ben c'est toujours un plaisir, Étienne. Puis n'hésite pas, je suis toujours disponible à venir te jaser.
Absolument. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. On se dit à un prochain épisode du Temps d'air.